Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why,
this is why, this is why I'm hot, hot. France Culture, 19h, passé d'une minute, on passe du porno à l'architecture, en effet, n'est-ce pas Zoé Sfez? C'était une transition comme une autre.
C'est une transition, ouais. Elle était hasardeuse, vous l'avez faite, mais non.
Voilà. Bienvenue dans Soft Power, le magazine consacré à la politique culturelle, aux industries créatives, au numérique et aux médias, jusqu'à 20h30 en direct. L'architecture et le design des professions en mutation, tel est le sujet de Soft Power ce soir. Globalisé, digitalisé, les architectes, les designers sont en pleine transformation. D'ailleurs, les passerelles entre ces différents secteurs, ainsi que l'art et l'interactive design se mêlent. Et nous avons choisi ce soir de nous intéresser justement à ces mutations qui affectent la manière de travailler des designers, des architectes, la manière aussi de se promouvoir et de diffuser leur production. Nous nous attacherons tout particulièrement aux jeunes designers et architectes qui ne sont pas encore des stars architectes, des architectes stars, on le dit comme on veut, mais en tout cas continuent et tracent leur voie. Je vous présente ce soir 6 profils différents, à la fois français, étrangers, à la fois architecte, designer, architecte d'intérieur ou architecte artiste interactif, designer en direct, tout ça ensemble. Ils sont en studio. Bernard Dubois est architecte belge. Il est venu spécialement ce soir de Bruxelles. Bonsoir monsieur. Du Thalys qui arrive à l'instant.
Bonsoir.
À une minute près, vous voilà, étiez juste pile à l'heure. Jean-Simon Roch, designer. Bonsoir, bonsoir monsieur. Aurélien Fouillet, vous êtes journaliste chez Intramuros, sociologue des usages, spécialiste des transformations et des pratiques du design. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis, nous avons également interviewé ces derniers jours pour cette émission deux autres artistes, designers, interactive designer, Arthur Hoffner, designer parisien, et David Simon, un artiste d'interaction design et entrepreneur suisse, pour varier un peu les plaisirs et les profils dans cette émission. Enfin, à 20h, votre invité innovation, Zoé Sfez, sera Benoît Drouillat.
Tout à fait, qui a fondé l'association Designer Interactif et qui a notamment, qui lui-même est ce qu'on appelle UX Designer. Et on va parler justement de ces designers nouveaux qui ne sont pas tous forcément issus du design. Évidemment, ceux qui conçoivent des applis, des sites internet, mais pas que, parce qu'on va voir que les concepts sont larges et qu'ils ont tendance à s'élargir justement.
Mondialisés, numérisés, de plus en plus indépendants, les designers et architectes effectuent leur mue. Soft Power tente ce soir de décrypter cette grande mutation. Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant, l'actualité. Nous parlons de la victoire hier soir de la chanteuse israélienne Netta à l'Eurovision, du salon de Montrouge ainsi que du spectacle Game of Thrones qui était hier soir à Bercy. 20h10, le numérique et politique. Le débat de ce soir sera consacré aux fake news. Quelle loi faut-il pour lutter contre la diffusion des fake news? Et nous serons pour en débattre avec Romain Pigenel, ancien conseiller de François Hollande à l'Élysée, cofondateur de Futur.io et de Paula Forteza, députée La République En Marche. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Cette émission est réalisée par Anne-Laure Chanel avec en régie Pierrick Monsigny. Elle a été préparée par David Lavaux avec, pour les réseaux sociaux, Pierre Ledamani. Car vous pouvez également suivre cette émission, vous pouvez suivre le programme Soft Power sur notre playlist Soft Power de Spotify, sur Twitter au mot-clé Soft Power, ainsi que sur les réseaux sociaux Instagram, Medium, Facebook, LinkedIn, en podcast et bien sûr sur France Culture en direct jusqu'à 20h30.
That got the second highest vote is, with 253 points, is Cyprus! Which means
that Israel is the winner of Eurovision Song Contest 2018!
The winner is Israel!
Ouch. Hm. La. Bitty. Ouch. 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 La. Ouch. 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 La. Bitty. Ouch. 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 La. Bitty. Ouch.
care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise, I will teach ya. Pum pum po, prum pum po. Hey, I think you forgot that I play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, 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 hey. My summer says leave me alone.
C'est donc une chanteuse israélienne de 24 ans, Netta Barzilay, on l'appelle Netta, qui a remporté hier soir l'Eurovision avec sa chanson Toy, jouée en français, une chanson OSS très politique.
Bah, c'est une chanson clairement revendiquée comme féministe et qui s'inscrit clairement dans le mouvement de MeToo. Alors il faut quand même noter donc, que le titre de cette chanson, et le refrain, c'est « I'm not your toy, you stupid boy ». Et elle commence en disant « Je suis une beautiful creature, je suis une créature magnifique ». Sachant que Netta, elle avait gagné déjà, c'était déjà ce qui s'était passé d'ailleurs avec Conchita Wurst. Elle était déjà connue dans son pays parce qu'elle avait été la finaliste et la gagnante d'un télécrochet où elle avait énormément travaillé avec notamment ce qu'on entend là, c'est-à-dire un boucleur où elle fait des illustrations, là en l'occurrence elle fait des bruits de poule pour justement dénoncer la manière dont on parle des femmes avec stupidité, comme si elles étaient des animaux, et qui a toujours dans ses chansons un caractère assez politique, et notamment contre la grossophobie, puisqu'elle-même a subi du harcèlement scolaire quand elle était plus petite. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a gagné avec les votes du public, parce que vous savez que l'Eurovision a changé de manière de voter, et que donc les votes du public sont pris en compte, et c'est clairement le public qui l'a fait gagner.
Avec la France arrivée 13e.
13e, alors la France qui fait quand même, qui dit que c'est une très belle position, que c'est très bien, avec une chanson politique aussi, puisque c'était une chanson qui faisait référence à la naissance d'un bébé, qui avait été sauvé par l'association SOS Méditerranée, un bébé né d'une migrante enceinte, mais qui n'est arrivé que 13e. Et donc, cette chanson clairement féministe sur MeToo. Il faut noter aussi quand même qu'hier, il y a eu 82 actrices, réalisatrices et la présidente du jury de Cannes qui ont monté les marches. Il y avait monté des marches totalement féminines dans l'histoire du festival de Cannes. Donc on était sur un samedi très MeToo, avec un texte qui a été lu à la fois par Cate Blanchett et par Agnès Varda en français et en anglais. Nous mettons au défi nos gouvernements et nos pouvoirs publics d'appliquer les lois sur l'égalité salariale hommes-femmes, qui ont rappelé qu'il n'y avait eu que 71, qu'il n'y avait eu que deux palmes d'or à Cannes depuis le début du festival, contre 71 attribués à des hommes, et uniquement 82 femmes sélectionnées contre 1688 depuis les débuts du festival. Je rappelle que ce festival, c'est le premier depuis l'affaire Weinstein, depuis MeToo, et qu'on a souvent accusé Thierry Frémaux d'avoir, disons, intégré à minima ces problématiques dans sa sélection, en nommant un jury qui est effectivement paritaire, où il y a autant de femmes que d'hommes, mais où il y a toujours beaucoup moins de femmes sélectionnées. Et donc cette montée du marche, elle a eu lieu à la projection du premier film des trois femmes en lice pour la Palme d'Or. C'est le film de la Française Eva Husson, qui a fait un film sur les guerrières kurdes.
Voilà, et la chanteuse a terminé une de ses interventions en disant « L'année prochaine à Jérusalem », a lancé la chanteuse. La victoire israélienne à l'Eurovision dans le domaine du divertissement reflète-t-elle un moment particulier pour Israël sur la scène politique? C'est à voir. En tout cas, la période actuelle est marquée par des ajustements, des retournements d'alliances et de nouvelles tensions au Moyen-Orient dont Israël semble plus ou moins, et pour l'heure, le bénéficiaire. Au-delà des passes d'armes ces derniers jours avec l'Iran, sur le sol syrien et en défense du Golan, Jérusalem sera officiellement proclamée, reconnue demain, comme capitale d'Israël par les États-Unis. La fille de Donald Trump et son mari, Jared Kushner, feront le déplacement eux-mêmes à Jérusalem demain. Selon le journaliste français Charles Enderlin sur Twitter, il ne s'agirait pas pour le moment d'une ouverture véritable, mais plutôt seulement d'une ouverture symbolique. L'immeuble retapé, écrit-il, à Jérusalem, servira uniquement à des rendez-vous pour l'ambassadeur américain, qui ne les fera plus, comme il le faisait jusqu'à présent, à l'hôtel King David. Les autres services de l'ambassade resteront, eux, à Tel Aviv. Autre information intéressante, elle vient cette fois d'une longue enquête que je vous recommande de lire dans le New Yorker, une enquête signée Dexter Filkins. Le journaliste révèle dans son article que le changement de capitale d'Israël entre Tel Aviv et Jérusalem, tel que validé par les Américains, n'est pas du tout un acte unilatéral ou isolé décidé par Donald Trump ou Benjamin Netanyahu, mais une politique délibérée coordonnée lors d'une importante réunion l'an dernier à Riyad entre les Saoudiens, les Émiratis, les Égyptiens et les Américains. Un axe sunnite uni contre l'Iran, contre le Hezbollah et libanais, et qui serait à l'origine à la fois du blocus contre le Qatar, de l'arrestation du premier ministre libanais Saad Hariri, du retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien ou encore la reconnaissance donc de Jérusalem comme capitale reconnue d'Israël. Toujours selon Dexter Filkins du New Yorker, le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, aurait été au cœur de ces négociations. Un article à lire en anglais dont vous pouvez trouver les références sur notre page Soft Power sur le site de France Culture et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter au hashtag Soft Power. On le voit en tout cas, le Moyen-Orient est à nouveau en mutation, en tension et certains disent au bord de la guerre sunnite-chiite, ce qui est déjà le cas entre les milices pro-chiites du Yémen et l'Arabie Saoudite ou les Israéliens et les forces pro-Hezbollah en Syrie. Demain matin, dans les matins de France Culture, Guillaume Erner reviendra sur le retrait américain de l'accord iranien et il recevra François Hesburgh. Et dimanche prochain, dans Soft Power, nous consacrerons notre émission à l'Arabie Saoudite, un pays en mutation où nous avons enquêté pour France Culture.
Soft Power, reportage. Zoé Suez.
Et prémisse dans cette case reportage, puisque nous allons parler du soft power français en matière de design et d'architecture, en tout cas des transformations numériques dans ces professions. Parlons d'art contemporain, alors que Paris, on s'est fait souvent l'écho ici, connaît une montée en puissance des fondations, des foires, avec la FIAC, et en tout cas une volonté affichée des politiques de refaire de Paris une place qui compte dans le monde de l'art contemporain. Eh bien, on sait que les jeunes artistes français ont toujours beaucoup de mal à émerger. Ils sont d'ailleurs relativement peu présents dans ces grandes institutions parisiennes. En ce moment a lieu quasiment l'unique salon qui leur est entièrement dédié, c'est le salon de Montrouge qui depuis 63 ans s'est imposé comme le lieu de défrichage de la jeune création française. Pour la troisième année consécutive, c'est le commissaire Ami Barak, poids lourd bien connu dans le domaine, qui a notamment été à la tête de la Nuit Blanche en 2003 et 2004, qui en assure la direction artistique avec à ses côtés la jeune commissaire Marie Gauthier. Je lui ai demandé quelle était la mission de ce salon qui est assez unique en son genre, probablement malheureusement trop unique, certains s'en plaignent, auprès des jeunes artistes.
La jeune création, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas encore ce que la carrière de ces artistes, finalement. Leur carrière est encore très courte, puisqu'ils sortent d'école pour la plupart. Ça fait débat à chaque fois qu'on soutient un peu des jeunes artistes dans les grandes institutions. Sinon, on va présenter des artistes qui ont quoi, une carrière. Parce que, effectivement, un jeune artiste du Salon de Montrouge, on ne va pas lui donner 3000 m² à remplir. C'est compliqué, il a pas encore suffisamment de production. Pour nous, ce qui est important, c'est de soutenir les jeunes artistes. L'après-école, c'est difficile, quoi. Et ici, c'est aussi l'idée de les pousser, dans certains cas, à produire de nouvelles pièces, continuer une réflexion sur leur travail d'atelier, on va dire, quand on n'a plus d'atelier. Quand avant, on était avec ses camarades et qu'on échangeait et qu'on se retrouve tout seul. Enfin, ça, c'est son rôle, en fait. La question de l'école d'art n'est pas une question nécessaire, bien que dans les artistes sélectionnés, pour la plupart, sont des jeunes diplômés. Pas tous, évidemment, hein. Il y en a qui viennent d'autres milieux. On a le cas ici, par exemple, d'Ariane Loz, qui vient, elle, du monde du théâtre à la base. Bon, pas de question d'âge au sens propre. Puis, surtout, ne pas avoir de galerie. C'est ça, on va dire que c'est le critère presque d'exclusion. Quelqu'un qui est déjà représenté en galerie n'est plus considéré comme, finalement, un jeune artiste. Intéressant ici, c'est aussi de voir le public. C'est un public très nombreux. On a, l'an dernier, par exemple, pour un mois, on a eu 27 000 visiteurs. Je pense que ce qu'il y a d'attrayant, je dirais, au salon, c'est justement de venir découvrir des gens qui sont inconnus. Et il y a quelque chose de, je dirais, presque de rassurant pour le public. On arrive, on sait pas trop ce qu'on va voir. On sait qu'on va trouver forcément des choses qui vont nous plaire. C'est assez décomplexé, en fait, dans le rapport à l'art. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important qui garantit le succès, on va dire, auprès du grand public. Et puis après, ça reste un espace où on vient repérer des talents. Il y a vraiment un dynamisme post-salon, quoi. Alors après, il y en a pour qui ça marche tout de suite. Au lendemain de la fermeture du salon, ils ont une expo, quoi, où une galerie les a approchés. D'autres, deux ans après, commencent à vraiment sortir. Il y a des timelines différentes pour chacun. En tout cas, tous nous le disent. Le salon, c'est une opportunité pour la suite, quoi.
En cette 63e édition du Salon de Montrouge, ce sont 52 artistes qui ont été sélectionnés. Tous travaillent ou vivent ou ont été formés en France. C'est le cas par exemple de Princia Itoua Dikelet, un jeune artiste congolais qui présente une œuvre très protéiforme sur la question de l'identité et de l'exil. Formé aux Beaux-Arts de Metz, il est cette année le lauréat de l'un des 6 prix attribués par le Salon chaque année. Il confirme qu'il constitue une étape fondamentale dans son parcours de jeune artiste.
je confirme, c'est vraiment, mais vraiment, comme on dit, c'est la galère, quoi. Je galère vraiment parce que c'est vrai que, par exemple, à Metz, on n'a pas eu une formation de comment se préparer à l'après. L'après-diplôme, l'après-sortie. On a eu quelques interventions, mais on n'a pas vraiment de préparation à proprement parler. Donc, du coup, quand on sort, on est un peu perdu. Donc, faut avoir un petit boulot à côté, continuer à faire des appels à candidature, des appels pour des résidences. Un salon comme celui-là, alors moi, j'y croyais pas du tout. Je me suis un peu arraché les cheveux à faire mon dossier parce que je voulais vraiment le réussir aussi. Donc, je me suis donné toutes les chances. Et donc, j'ai réussi à être sélectionné. Pour moi, donc du coup, oui, ça représente donc une belle réussite parce que déjà, alors moi, je suis congolais. Mon père est de la vieille école. Donc, quand je lui ai dit que je voulais faire des études d'art après mon DUT informatique, il n'avait pas du tout apprécié. Donc, disons que faire le salon de Montrouge, ça représente une réussite pour moi parce que du coup, là, il est fier de moi. Ça représente aussi une ouverture pour un futur du passé.
Alors, le futur du passé, c'est un des quatre thématiques donc, autour desquelles sont regroupés les 52 jeunes artistes qui sont exposés à Montrouge, donc avec essentiellement quatre parties, une avec des artistes qui dialoguent plutôt avec la nature, d'autres qui se posent des questions formelles et d'autres évidemment qui travaillent sur la question de l'identité et de l'exil, comme c'est le cas pour ce jeune artiste d'origine congolaise.
Dans un instant, nous nous intéressons au design, à l'architecture, état des lieux de ces professions de plus en plus mondialisées, de plus en plus digitalisées, sans oublier leur transformation en matière de statut social, fiscal et du travail. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur le live concert hier soir à Paris à l'Accor Hotel Arena autour de Game of Thrones, une expérience immersive originale entre technologie et musique symphonique qui visait à redonner vie aux sept royaumes. Le compositeur original de la série très populaire, série télé de HBO Game of Thrones, Ramin Djawadi, était accompagné d'un orchestre complet et d'une chorale pour une aventure musicale à travers l'univers de la série et ses codes avec John Snow, Daenerys Targaryen, Arya et Sansa Stark, personnages qui évoluaient entre Winterfell, King's Landing, le mur et autres endroits emblématiques de Westeros. Un phénomène intéressant, Zoé Sfès, de live concert basé, comme d'autres exemples, sur des succès de l'entertainment.
Effectivement, alors les premiers qui ont eu un succès comme ça très important en France, c'était les concerts, les ciné-concerts Harry Potter. On a eu aussi ça évidemment avec Disney, qui organise notamment Pirates des Caraïbes, toutes ces BO qui avaient gagné, disons, des vraies lettres de noblesse. Et donc à chaque fois, c'est avec cette idée d'un orchestre symphonique en live, qui est la plupart du temps sonorisé. Ça a été le cas avec Jurassic Park. Et alors, c'est quand même des concerts extrêmement chers. Hein. Là, en l'occurrence, c'était 73 à 188 euros. Et en fait, l'intérêt, c'est ça combine, si vous voulez, les avantages pour des fans du Comic-Con, c'est-à-dire que les gens y vont déguisés, s'y retrouvent entre fans de la même série, ont la sensation d'assister à un spectacle qui, à la fois,
qui est unique pour
qui
le
est
coup,
unique ouais. Et live. Qui est du spectacle vivant. Et c'est ça qu'on leur vend. On leur vend du spectacle vivant, tout en étant
avec des extraits projetés sur grand écran,
ouais. Etc. Et c'est quand même un petit peu ce qu'on appelle le merchandising live, c'est-à-dire qu'on avait évidemment Disney qui avait inauguré tout ça avec son parc, mais de plus en plus chacun peut le faire, les Marvel, Jurassic Park. Et là, faut savoir aussi, quand même, c'est pas du tout négligeable que Game of Thrones, il y a une immense exposition qui débarque au parc des Expos de Versailles pendant 2 mois, et où on aura donc les décors, les costumes de la série américaine, aussi des extraits de la musique. Donc là, on voit vraiment que la série, qui n'appartient pas au groupe Disney, hein, qui appartient à HBO, se crée son propre merchandising dans la vie réelle.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
France Culture, 19h20, ce soir nous parlons de design, d'architecture, de nouveaux designers, on parle notamment de leur influence dans la mondialisation, de leur numérisation, digitalisation, des nouveaux modèles économiques aussi, des transformations dans le domaine du droit du travail, freelance, etc. Leur formation et puis aussi des évolutions liées notamment aux frontières qui se brouillent entre architectes, designers, interactive designers, artistes, ainsi que également l'influence, comment est-ce que on trouve des valeurs, comment est-ce que Instagram devient le portfolio, le book aussi pour ces designers, le grand véhicule de la tendance. Et on parlera également de comment ce secteur est affecté par les pressions environnementalistes, notamment autour de la verte végétalisation, du green. Pourquoi pas faire des villas perdues dans la nature? C'est un de vos rêves, Bernard Dubois? Faire des villas dans la nature.
Oui, tout à fait. Pourquoi pas?
Alors vous êtes architecte, vous venez de Belgique, de Bruxelles, notre invité ce soir. Comment est-ce que vous définiriez votre travail, à la fois avec un usage assez radical du béton, en même temps très minimaliste, et des œuvres qui ont été faites, notamment pour ce qu'on appelle des corners? Comment dire un corner en français? C'est quoi?
Je ne suis pas sûr que ça porte un nom en français, en fait.
C'est en fait un voilà. Magasin dans le magasin.
C'est un magasin dans le magasin.
Voilà, vous avez fait le corner de la marque Valextra pour les Galeries Lafayette à Paris. Le siège de cette même marque à Milan. Vous avez été co-commissaire du pavillon belge à la Biennale de Venise en 2014. Vous travaillez pour la marque Zadig et Voltaire, et également pour la marque, pour beaucoup de marques, Nicolas Andreas Staralis, etc. Comment vous définiriez ce travail?
Alors, moi, j'ai une agence d'archi qui est basée à Bruxelles. On intervient dans différents endroits. Et c'est un travail, en fait, qui n'est pas essentiellement basé autour du programme, c'est-à-dire autour d'un programme particulier, bien qu'on travaille beaucoup dans le commercial, on fait beaucoup de magasins. Mais pour moi, ma pratique est plutôt basée sur une façon d'envisager les formes architecturales. En fait, j'essaye, pour moi, chaque projet est l'occasion de jouer avec les formes architecturales et de remettre en question, en quelque sorte, les grands récits architecturaux du XXe siècle, donc modernisme, postmodernisme, etc., et de jouer avec l'ambiguïté des formes, en proposant des formes qui semblent ou peuvent paraître évidentes une fois qu'elles sont produites, photographiées, montrées, mais qui ne le sont pas du tout lors de leur dessin et lors de leur conception. C'est pour ça que mon architecture peut sembler minimaliste au premier abord, parce que c'est un petit peu le vocabulaire principal qu'elle utilise, mais elle fait intervenir beaucoup d'autres références. Voilà.
Quelles sont vos références, par exemple, au-delà de l'inévitable Le Corbusier, puisqu'en plus vous êtes belge, c'est pas trop loin de la Suisse, Mario Botta, Ricardo Bofill, etc. Quelles sont les références que vous mettez en avant?
Ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les moments, en fait, c'est-à-dire que l'histoire de l'architecture du XXe siècle est toujours vécue, enfin, toujours apprise comme une sorte de suite de révolution et de rupture. Le modernisme chassant tout ce qui existait avant, le postmodernisme chassant le modernisme, etc. Et ce qui m'intéresse, ce sont les moments d'ambiguïté entre les deux, volontaires ou involontaires. Donc, par exemple, Auguste Perret est une référence qui revient très souvent parce qu'elle arrive juste avant. Philip Johnson, qui était très intéressant parce qu'il a parcouru tout le XXe siècle en changeant.
Puis il faisait aussi des villas dans la nature.
En changeant son fusil d'épaule.
En verre, je crois.
Tout à fait. Ça, c'était sa période vraiment purement moderniste. Mais disons qu'entre cette période-là et une période qui est devenue après complètement postmoderniste, il est une petite période charnière qui ressemble presque à celle qui ressemble presque à du Auguste Perret finalement, où il fait où il réintroduit une sorte d'architecture classique ou une sorte de classicisme, donc la symétrie, les colonnades, etc., mais traité avec un vocabulaire totalement moderniste. En fait.
Vous travaillez énormément à l'international, notamment en Chine, je crois. Vous avez fait de l'architecture, des magasins, etc., notamment en Corée aussi. On est un architecte belge mondialisé, on pourrait dire.
Apparemment. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la pratique de l'architecture a pas mal changé au niveau du quotidien. C'est-à-dire qu'en étant basé physiquement à un endroit, on peut intervenir à plein d'autres endroits. Alors c'est vrai qu'en étant basé en Belgique, je peux faire des chantiers en France, en Italie ou ailleurs en Europe, que je peux suivre de plus ou moins près en fonction du pays où je me trouve. Si je fais un chantier à Paris, je le suis évidemment moi-même ou mes équipes au quotidien.
Au fond, un architecte, c'est quelqu'un avec un ordinateur aujourd'hui.
Oui, finalement, c'est une personne avec un laptop, quoi. Voilà. Enfin, c'est un bureau d'architecte, c'est un ensemble de personnes avec un laptop qui parfois se posent au même endroit et discutent ensemble. Parfois, sont dans des endroits tout à fait différents et font des Skype en partage d'écran où ils comparent, et ils se montrent les 3D, etc. Ils disent, voilà, plus comme ça, moins comme ça. Parfois, je suis en train de voir un chantier à Los Angeles et je discute avec mon équipe Je discute en anglais avec mon équipe italienne basée en Belgique, d'un autre projet se trouvant en France, par exemple. Donc c'est vrai que les choses sont très, très mélangées. C'est une sorte de culture mondialisée, quoi.
Face à vous, Jean-Simon Roch, rebonsoir. Vous êtes, vous, designer qui évolue, ça montre bien les frontières qui se brouillent, qui évoluent vers la profession d'artiste, au fond. Qu'est-ce qui distingue le designer de l'artiste et...
Bah, je pense que moi, je me positionne maintenant plutôt comme artiste parce que les commandes qu'on me fait sont de l'ordre de la première fois, en fait.
Elles ne sont pas reproductibles, voilà, et ce n'est pas de l'industrie.
Oui, ouais, en fait, il n'y a pas de cette notion de reproductibilité et toutes ces contraintes qui sont liées, qui sont vraiment très importantes dans le travail du designer. Parce que du coup, c'est des contraintes de coût, des contraintes de durabilité que moi, du coup, j'arrive avec chance à évacuer, je trouve. Aussi parce que... Enfin, c'est une démarche qui, pour moi, est continue depuis mon projet de diplôme, qui était une recherche entre la différence entre l'inanimé et l'animé. Et du coup, c'est une recherche que je continue depuis 3-4 ans et qui, après, investit tous mes projets. Mais donc, chaque projet est différent, mais chaque projet, quand même, emporte cette part de recherche qui est là tout le temps et que je continue à réaliser dans mon atelier à Montreuil.
Et alors, si on se projette là pour le coup dans quelque chose de très franco-français, une distinction entre les deux, c'est le designer qui va pouvoir adhérer à la maison des artistes et celui qui ne va pas pouvoir. Et ce qui distingue justement, c'est le fait que vos objets, vos productions, vos produits sont ou non industriels, c'est ça ?
Oui, alors en fait, moi je suis pour le coup pas la maison des artistes, je suis auto-entrepreneur, mais... C'est un peu idiot parce que je pourrais être à la maison des artistes.
Mais il y a beaucoup de designers qui aimeraient être et qui n'ont pas le droit parce qu'ils font du design industriel.
Voilà, et en fait, l'artiste peut soit vendre de l'image, soit vendre une installation, mais a plus de difficultés, enfin le designer a plus de difficultés du coup à être à la maison des artistes pour ça. Il y a aussi un problème qui peut être handicapant, c'est que, par exemple, un artiste va pouvoir... par an, je crois, faire, quand il est à la maison des artistes, faire 5, par exemple, ateliers de démonstration de son activité. Et moi, ce qui pourrait me bloquer, par exemple, parce que moi, je travaille beaucoup pour des centres culturels et qui me demandent, du coup, de faire des ateliers pour enfants. Et ça représente une grosse partie, finalement, de mon activité en ce moment, en fait.
Alors justement, vous le dites, vous, je crois, vous avez été formé à l'ENSI, c'est ça ?
Oui.
L'une des principales écoles en France de design. Et justement, c'est intéressant parce que quels sont aujourd'hui les lieux de formation en France du design ? Je sais que certains viennent des arts décoratifs, certains viennent de cette école, d'autres viennent encore de BTS de design. Il y a eu d'ailleurs dans toutes ces écoles des frondes récemment à l'ENSI, il y en a eu aussi à l'école aux Beaux-Arts, contre une certaine professionnalisation que les nouveaux directeurs voulait imposer dès l'école. Il y a eu une occupation à l'ENSI, évidemment, au Beaux-Arts, il y a eu une occupation aussi la nuit. Comment est-ce que vous lisez ça, justement, avec des élèves qui disaient on veut rester des écoles d'art, on veut rester des écoles aussi avec des artisans qui nous montrent des choses. On a l'impression qu'on a une espèce de croisée des chemins. Comment est-ce que vous lisez ça? Et qu'effectivement, en France, on a de plus en plus de designers qui, comme vous, se situent plutôt du côté de l'art.
Bah, je pense que l'ENSI s'est fait là-dessus, en fait. C'est fait sur la possibilité pour un étudiant d'avoir des parcours, un parcours personnalisé et qui peut être vraiment très différent de la personne qui est rentrée la même année que lui. Ce qui avait tendance un peu au bout de 30 ans de la vie de cette école, qu'elle commence un peu à se renfermer et les étudiants, je pense, sentaient que des décisions étaient prises pour aller tout d'un coup vers le numérique et aller que là-dedans ou avoir vraiment et de perdre petit à petit cette espèce de temps qu'on peut prendre sur les 5 ans que représente l'école, d'aller un peu regarder à droite à gauche. Il y a aussi il y a eu pas mal de questions autour de l'importance des ateliers dans cette école. C'est vraiment une des caractéristiques de l'ENSI, c'est que c'est basé sur le faire et des allers-retours entre la pensée et le faire. Et ces ateliers étaient de moins en moins mis en avant, ou en tout cas il y avait peut-être moins de moyens sur ces ateliers. Et je pense que les étudiants avaient un peu peur aussi de ça.
Justement, sur cette question de la formation en France, au regard de tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'elle est suffisamment, disons, riche, développée? Est-ce qu'elle va suffisamment dans tous les sens dans lesquels la profession va? C'est-à-dire qu'on a des designers qui sont de plus en plus industriels, on a des designers qui vont de plus en plus vers l'architecture, vers des collaborations avec des marques, et des gens qui, inversement comme vous, vont travailler sur, ou pas inversement d'ailleurs, c'est une question, vont travailler sur des, presque sur des pièces, quoi, des pièces uniques.
Oui, je pense que à l'ENSI, mais encore une fois, c'est vraiment un cas particulier qui fait que on a l'intervention de beaucoup de personnes de l'extérieur qui peuvent être des sociologues, peut y avoir des, on avait un projet autour du cirque où il y a une compagnie de cirque qui venait, et je pense que c'est vraiment essentiel puisque maintenant on voit, et moi, mon entourage et les amis que je continue de fréquenter de cette école vont dans des domaines autant de la danse que de l'artisanat, enfin proche de
vers
ce
la performance, l'installation, etc.
Voilà.
Avec nous ce soir également Aurélien Fouguier, vous êtes journaliste chez Intramuros, sociologue aussi des usages, vous vous intéressez aux transformations des pratiques du design par rapport à ce qui vient d'être dit par nos deux premiers invités, Bernard Dubois, architecte belge, et Jean-Simon Roch, designer. Comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que vous avez compris de ce qui a été dit, de cette évolution?
La première chose qui m'a frappé, justement, qui est une sorte de communauté de destin, on pourrait dire, entre les designers et les architectes, c'est cette idée de l'hybridation, de l'ambiguïté, de dépasser les frontières, et qui peut se manifester de plein de façons dans la citation de différentes références, dans l'hybridation des technologies. Il y a énormément de choses aujourd'hui dans le design. Je pensais à Papier Machine, qui est une sorte de collectif de designers qui a gagné il y a 2 ans, je crois, le prix Audi Talent, où, en hybridant justement du papier et des encres conductrices, ce qui permet d'augmenter en fait l'expérience de lecture d'un livre papier en le faisant interagir avec nos téléphones portables ou simplement en produisant du son ou du mouvement dans le livre. Et ça me faisait penser à ce que disait un sociologue du design, c'est que le design, c'est une sorte de synergie de l'archaïque et du technologique. Ce sociologue, c'est Michel Maffezoli, et en revenant là-dessus, en fait, il nous montre bien justement cette espèce de tension permanente qu'il y a dans la construction d'objets, au travers de l'architecture du design d'ailleurs, entre des formes qui seraient des formes un peu fondamentales, dans lesquelles l'humain pourrait se reconnaître dans ses usages, dans ses pratiques, dans ses gestes, dans ses configurations relationnelles, et justement l'évolution aussi des matériaux, des techniques et de toutes ces choses-là.
Bernard Dubois.
Oui, alors après, ce sont cette hybridation dont vous avez parle de sujets qui sont pas nécessairement tout à fait les miens, donc je suis pas le plus à même d'en parler puisque nous travaillons.
Enfin, en même temps, l'hybridation, elle existe chez vous aussi, y compris dans la frontière entre les matériaux.
Nous, ce qu'on étudie surtout, c'est plutôt vraiment une hybridation de formes et de matériaux, etc. On n'est pas vraiment tout à fait dans une recherche technologique où on utilise la technologie comme un outil dans notre pratique quotidienne, mais plutôt pour étudier les formes et l'ambiguïté de ces formes et leur relation aux matériaux dans un contexte référentiel qui est un contexte référentiel relativement familier, qui est celui du XXe siècle.
Et pour parler du numérique, au fond, puisqu'on a déjà évoqué plusieurs reprises la digitalisation, la numérisation de ces professions, elle se fait à de nombreuses manières. Elle se fait d'abord la manière dont on travaille, on prépare évidemment. Ensuite, il y a les objets parfois, l'impression 3D, les makers, les Fab Labs et tout ça. Et puis enfin, tout ce qui est communication, on devient une marque, on doit être sur Instagram pour avoir son portfolio, son book, et on devient un influenceur soi-même. Avec comment est-ce que vous voyez cette cette emprise du numérique à tous les degrés de votre profession?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs moments. Je pense qu'il y a eu plusieurs moments. Par exemple, dans les années 90-2000, il y a beaucoup d'architectes ont été très contents de découvrir la 3D, la modélisation 3D, le rendu 3D, etc. Et ont commencé à produire des formes tout à fait nouvelles, étonnantes, etc. Et se sont rendus compte très rapidement, finalement, de l'absurdité de ces formes et de leur impossibilité en termes constructifs, en termes budgétaires, etc. Puisque, en fait, l'architecture est encore une façon, est encore une discipline qui était un niveau de technologie relativement faible, en tout cas dans l'assemblage des choses. Par exemple, je cite un exemple. Un bâtiment de Niemeyer qui aurait une forme plus ou moins étrange serait en fait composé d'une série de poutres qui seraient, elles, tout à fait identiques. Mmh. Voilà, et qui suffirait de placer à chaque fois avec un angle de 15 degrés, par exemple, et qui formerait un bâtiment qui aurait la forme sculpturale recherchée. Un bâtiment comme un bâtiment de Zahadid ou de Frank Gehry est d'une complexité telle qui nécessite la production à chaque fois de pièces uniques, en fait, qui du coup, d'un point de vue économique et d'un point de vue constructif, deviennent très très complexes. Donc je pense que ce moment-là de la fascination pour la technologie est dépassé, je pense.
Et on est vers quoi? On commence à évoluer?
Je pense qu'on est dans une sorte d'usage vraiment quotidien et beaucoup plus terre-à-terre de cette technologie. Tout à l'heure, je voyais qu'il existait un nouveau système Google d'intelligence artificielle qui permettait de faire personal assistant et qui permettait d'appeler le coiffeur et prendre rendez-vous avec le coiffeur. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce qu'on aura une intelligence artificielle qui parle à une autre intelligence artificielle et elles vont se parler en fait en français ou en anglais, bêtement, avec les mêmes mots que nous. Donc on pourrait nous aussi interagir avec elles en fait. Et donc tout ça devient finalement beaucoup plus quotidien et moins fou que ce que c'était. Et nous, dans notre pratique, la façon dont ça s'exprime, c'est qu'en fait, ça s'exprime de façon beaucoup plus spontanée. C'est-à-dire que, par exemple, on travaille énormément sur WhatsApp avec mes collaborateurs. On s'envoie des documents, on les corrige sur WhatsApp, on se les renvoie, etc. Et donc, la numérisation, elle a lieu. Évidemment, tout ce qu'on fait est en numérique, tout ce qu'on fait est produit par ordinateur. De façon vraiment très instinctive, très simple, très naturelle, très presque analogique finalement. Voilà.
David Simon est un jeune artiste designer suisse formé à l'interactive design. Nous l'avons interrogé sur les évolutions de son secteur, des mélanges de genres justement entre art, design, interactive design, interaction design puisqu'il y a déjà plusieurs expressions, et entrepreneur. Comment définit-il lui-même son métier? David Simon.
I'm somewhat of a crossover.
Je dirais que je suis un touche-à-tout. Je ne suis pas simplement artiste, je fais aussi du design et je dirais que je suis aussi un entrepreneur. J'ai une vie avec plein de casquettes et je passe d'une à l'autre et elles se renforcent les unes les autres.
La nécessité d'être un entrepreneur, ça veut dire qu'on peut plus être simplement indépendant ou salarié, qu'il faut créer sa structure, il faut créer sa start-up.
Alors, si vous avez un peu de chance, vous aurez hérité beaucoup d'argent. Et c'était le cas de très grands artistes. Et vous, donc, vous pouvez poursuivre ce modèle économique. Mais si vous n'avez pas cette chance, eh bien... Il faut trouver une sortie, il faut être plus visible, et c'est ce qu'il faut faire en tant qu'artiste. Vous aurez donc besoin de penser en termes d'entrepreneur, comme un homme d'affaires, et avoir une équipe d'individus qui vont s'occuper du marketing et qui vous offrent cette visibilité que vous n'avez pas.
Vous dites qu'il faut être une sorte de visibilité nécessaire, donc qu'on lutte pour cette visibilité. Ça passe notamment par les réseaux sociaux, il faut être sur les réseaux sociaux. Et quels sont ceux qui sont aujourd'hui, pour un designer, pour un artiste, les plus utiles?
Ce que l'on a pu voir ces dernières années, je dirais même plus ces deux dernières années, à travers des médias comme Instagram. D'ailleurs, Instagram a dépassé Facebook, je dirais même s'ils sont la propriété d'une même et seule compagnie.
Pour les artistes en particulier?
Oui, je crois, effectivement. D'autant plus que cela tient, à mon sens, au côté éphémère même du média. Instagram, c'est très visuel, ça s'alimente de sources visuelles, alors que Facebook est devenu plutôt, je dirais, une plateforme de vidéo. Pour moi, puisque c'est plus l'élément critique qui me touche, Twitter est beaucoup plus proche, puisqu'il y a la base du texte et il y a tout un engagement intellectuel, si on peut parler de cela.
À l'instant donc, l'artiste designer David Simon, suisse, traduit en direct par Paloma Goulemeau. Dans un instant, on aura une deuxième partie avec David Simon, mais j'aimerais vous faire réagir. Ce soir, on parle d'architectes, de designers, de leur évolution, des évolutions de ce secteur. On est avec Bernard Dubois, architecte belge, Jean-Simon Roch, designer, Aurélien Fouillet, journaliste chez Intramuros. Peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit, la montée en puissance déjà d'Instagram. Un artiste aujourd'hui, un designer, un architecte, il est sur Instagram pour y mettre déjà son portfolio, son book. Au fond, le grand véhicule de la tendance, on pourrait dire, Bernard Dubois.
Alors, au-delà d'Instagram, c'est aussi le rôle de l'image de façon générale. C'est-à-dire que souvent, comme tous ces projets se font à différents endroits dans le monde et aussi à des endroits qui sont publics, privés ou des moments particuliers et qu'on ne peut pas aller, qui ne sont pas accessibles à tout le monde à tout moment, beaucoup des projets qu'on fait en fait sont communiqués et vus seulement en images. Donc il y a un rôle très très important de l'image et cette image, en tout cas moi dans ma pratique, j'y pense dès le début, c'est-à-dire que le projet commence par une image, il commence par des images et il finit par des images, donc par des photographies. Et très souvent, s'il s'agit d'un projet qui est plus ou moins éphémère ou qui est privé ou qui est dans un lieu lointain comme une ville chinoise comme Chengdu par exemple où peu de gens qu'on connaît vont, eh bien, les projets sont vécus sous forme d'images et sont communiqués presque exclusivement sous forme d'images.
Jean-Simon Roch ou Aurélien Fouillet, on peut dire que cette tendance passe par... on devient des influenceurs, on devient des brands quand on est designer, quand on devient artiste designer.
Alors, on le devient si on le veut et si on tague les marques qu'on utilise.
On devient brand soi-même, on devient une marque.
On devient puisque par Instagram, par exemple, on est associé à un compte, à un nom. Et du coup, on est comme ça partagé. Après, moi, je trouve que pour moi, l'intérêt d'Instagram, c'est que c'est un support qui est assez particulier et qui a ses propres contraintes. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport à Facebook ou à d'autres réseaux sociaux, Instagram, c'est un des seuls où on ne peut pas accélérer dans la vidéo, où on ne peut pas revenir en arrière. En fait, ça fonctionne par boucle. Et du coup, il y a une attention qui est quand même demandée, même si on peut scroller. Du coup, il y a ce côté je passe très vite. Mais aussi, si on veut vraiment aller au bout de la vidéo, on est obligé de.
Il y a aussi une absence de viralité, puisque même quand on like, cette photo n'est pas partagée sur son propre compte, donc on la médiatise plus difficilement, même si évidemment on se crée sa marque en ayant son nom sur Instagram. Aurélien Fouillet, sur ce sujet.
Oui, alors moi je ferais un pas de côté par rapport à Instagram, c'est-à-dire que Instagram c'est une façon de raconter une histoire, alors l'histoire de son travail, on dit Instagrammable par exemple pour un paysage, pour un objet, comme s'il y avait des objets qui ne pouvaient pas passer par les filtres. Et ça renvoie, je trouve, à ce qui était évoqué au tout début de l'interview, c'est le côté un peu slasher. C'est-à-dire, on est artiste, slash designer, slash artisan, slash architecte, slash sociologue, enfin, peu importe. Et ça renvoie un peu aux hashtags aussi qui viennent, en quelque sorte, catégoriser les images qu'on vient poster. Et c'est quelque chose qui dépasse, je trouve même plus largement, la question simplement de l'identité ou de devenir soi-même une marque ou une histoire, et qu'on retrouve dans des profils comme celui de Matthew Crawford, par exemple, qui a écrit Éloge du carburateur, qui est philosophe de formation, qui travaille dans des think tanks à Washington, et puis qui, au bout de quelques mois, décide de tout claquer pour aller ouvrir un atelier de réparation de motos de collection. C'est aussi ce qu'on va retrouver ensuite, vous en avez parlé, dans le mouvement Maker. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Makers, de Michel Lallemand.
On les recevra dans quelques semaines.
Qui revient sur ces ateliers du changement, et qui, un peu de la même manière, permet un peu à tout le monde de slasher dans différents types de pratiques. Et ça, c'est une question que j'aimerais poser aux deux invités. C'est est-ce que c'est une avancée, un problème, le fait que tout le monde aujourd'hui puisse être un peu designer, un peu architecte?
Qui veut répondre, Bernard Dubois?
Oui, en fait, je pense que c'est plutôt un mouvement positif, parce qu'on a connu et on connaît encore un mouvement qui est un mouvement inverse, c'est-à-dire que, par exemple, la pratique d'architecte au cours du XXe siècle était une pratique très très vaste, et les architectes dessinaient à la fois des meubles et des plans d'urbanisme, et maintenant, quand on demande si on est architecte, la première question, c'est d'intérieur ou d'extérieur, et après, c'est fait de la commande privée, de la commande publique, ou des résidentiels, ou du commercial. Et les gens...
Architecte de conception, architecte de maître d'œuvre, etc.
Architecte de conception, maître d'œuvre, architecte d'exécution, qu'est-ce qu'on est exactement? Et donc, en fait, tout devient hyper, hyper spécialisé, et notamment dû à la complexité, disons, légale, technique, des disciplines qu'on couvre. Et pour ça, je trouve que c'est très, très important de retrouver cette interdisciplinarité, et en fait de retrouver le fait que nos métiers en fait ne sont qu'un et sont le même et qu'ils puissent recouvrir plein de choses différentes, quoi. Donc c'est positif.
Jean-Simon Roch, une réponse rapide.
Je suis tout à fait d'accord. En fait, on a la chance de. En fait, je pense que le premier truc, c'est l'histoire qu'on a envie de raconter. Du coup, quand on est créatif ou designer, scénographe ou et du coup, après, si ça doit faire appel à quelque chose qui est de l'ordre de l'échelle d'un bâtiment, de l'échelle, enfin, d'une chorégraphie, en fait, le principale question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut raconter et si on a envie de.
Si on a envie.
Non, mais du coup, de faire appel après soit à ses capacités, soit à notre entourage, soit à des amis qui ont d'autres. C'est pour ça que nous, dans l'atelier Commode à Montreuil, en fait, on commence à avoir des projets ensemble, mais il y a un illustrateur, il y a quelqu'un qui fait des chaussures, quelqu'un d'autre qui fait des faux matons. Et du coup, on se croise, mais c'est pas le but de faire un lieu pour que les choses se croisent, c'est en travaillant ensemble à côté, et ben, il y a des choses qui font sens, mais qui sont de l'ordre du bon sens, ce qui fait que ben, tout d'un coup, on se retrouve à bosser à plusieurs, en fait.
Arthur Hoffner est un designer français de 28 ans. Nous l'avons interrogé la semaine dernière à Paris sur son métier de designer. Arthur Hoffner.
Un designer, je dirais que c'est une action, celle de concevoir et créer des objets dans un sens très large, puisque le design va de la conception d'un stylo à celle d'un avion, en passant par celle d'une application numérique. C'est évidemment des écoles de design, donc un diplôme, mais je pense que c'est avant tout une logique de conception et de création d'un objet qui prend en cause sa fonction, avant tout, c'est un peu une des définitions du métier de designer, et ensuite tout un nuage de notions qui sont plutôt d'ordre culturel, c'est-à-dire sa forme, ses connotations, ses couleurs, son aspect de manière très générale en lien avec sa fonction ou l'utilité qu'on va en faire.
Comment est-ce qu'on gagne sa vie en faisant des choix personnels, ou est-ce qu'on réagit à la commande, et comment est-ce qu'on peut concilier cette passion avec, au fond, quelque chose qui nous est un peu imposé?
Alors, le designer réagit très souvent à la commande. C'est une question d'équilibre et de balance entre des projets qui vous nourrissent concrètement de manière financière et puis des projets qui vous passionnent.
On gagne combien, par exemple, sur une lampe que vous avez faite chez Sina?
Alors bon, c'est un cas assez particulier. Je pense pas que ce soit un objet extrêmement commercial. Il faut savoir que pour vivre uniquement de l'édition, donc quand je parle d'édition, je parle d'objets que l'on dessine et qui sont ensuite produits et diffusés par une maison d'édition. Il faut savoir qu'il faut, encore une fois, je parle d'expérience personnelle, mais à mon avis, il en faut plusieurs, voire une bonne dizaine avant de pouvoir en vivre pleinement, c'est-à-dire qu'on en vit en royalties, donc on touche 5% sur l'objet vendu, sur son prix de production. Donc ça, c'est relativement faible. Un grand nombre d'objets sont réalisés à partir de logiciels, ce qui définit, mine de rien, une véritable esthétique de notre monde aujourd'hui, puisque l'outil numérique est un outil qui génère un certain type de formes, qui ne sont pas les formes qu'on génère à la main, et donc ces formes définissent elles-mêmes notre monde. Ensuite, on a le numérique au sein même des objets, c'est-à-dire qu'il y a ces fameux objets connectés dont on entend beaucoup parler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le physique et le numérique sont fusionnés. Évidemment, le numérique, c'est aussi une manière de diffuser son travail. Donc là, je parle plus de l'aspect web, en fait, et Internet, dans la diffusion de son travail, dans la manière de se connecter entre designers ou avec le public. Et donc là aussi, on a, par exemple, Instagram, évidemment, qui est le réseau social, je pense, des gens qui sont dans la création visuelle. Instagram, aujourd'hui, devient, j'ai l'impression, le nouveau site web. Les gens vont plutôt voir un profil Instagram qu'un site web, parce que le profil Instagram, déjà, mêle peut-être plus l'aspect personnel et l'aspect, la vie quotidienne d'un créateur avec son travail.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
On parle ce soir dans Soft Power des mutations du métier de designer, d'architecte, aussi des frontières qui se brouillent entre ces différents secteurs. Et nous sommes avec Bernard Dubois, architecte belge, Jean-Simon Roch, designer, Aurélien Fouillet, journaliste chez Intramuros. Et puis on a d'autres invités qu'on a enregistrés, notamment Arthur Hoffner qu'on écoutait à l'instant, David Simon. Et tout à l'heure on recevra Benoît Drouya, Zoé Sfez, qui s'intéresse au designer interactif.
Qui en est un, figurez-vous. C'est ça qui est bien.
Et qui est président fondateur
de cette association et qui nous parlera notamment du UX designer, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur.
Alors revenons sur ces sujets de design, d'évolution du secteur, au travers des questions des modèles économiques. Comment est-ce que vous les voyez les uns les autres évoluer ces modèles économiques? Comment on gagne sa vie dans ce métier? Comment aussi on se structure de manière juridique au niveau français, parfois au niveau international? Et comment aussi on fait son expérimentation dans ce secteur? Comment est-ce qu'on a du temps à consacrer peut-être à ce qu'on appelle la recherche et le développement, c'est-à-dire à innover, à penser à nouveau, prendre le temps pour créer pour soi et pas simplement pour gagner sa vie. Donc comment on a à la fois sa liberté et en même temps parfois des projets rébarbatifs et contraints. Bernard Dubois.
Alors comme on entendait plutôt dans l'une des interviews, quelqu'un qui parlait du fait que certains commençaient avec beaucoup d'argent et étaient donc libres de l'organiser comme ils voulaient, et d'autres étaient obligés de gagner leur vie et donc de réfléchir aussi comme des businessmen finalement. Donc c'est vrai qu'on est amené, ça c'est normal, à devoir organiser un petit business à notre échelle, qui est compliqué parce que la variation de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre est énorme. C'est-à-dire on peut faire une très grosse année, suivre une très petite, suivre une très grosse, etc.
Parfois on a besoin de 3 personnes, parfois de 50.
Parfois, oui, le nombre de personnes exigées par les projets est très différent. Parfois on fait 3 projets qui payent toute l'année. Parfois on fait 10 projets qui ne payent pas toute l'année et qui sont peut-être beaucoup plus beaux en fait. Donc il faut être capable de jongler avec tout ça de façon très 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 flexible, tout en pouvant construire des collaborations, construire une pratique et construire une stabilité
financière
à long
terme.
On est une petite start-up, mais qui n'a pas nécessairement pour vocation de devenir gigantesque comme une start-up ou de pouvoir être revendue. Ouais. Voilà, c'est une petite start-up qui reste à l'échelle de petite start-up un peu toute sa vie. Mais alors voilà, donc les du côté de la commande, parce que vous posiez la question de la commande, nous on considère, enfin pour chaque projet par exemple qui rentre chez moi, je me pose toujours la question de savoir pourquoi je fais tel ou tel projet. Et c'est vrai que on a la chance pour le moment de ne faire aucun projet qu'on considère comme alimentaire, c'est-à-dire qu'on ne fait que des projets qui nous intéressent. Enfin, je ne fais que des projets qui m'intéressent et j'essaye de trouver à chaque fois la chose qui puisse être compatible entre les attentes du client et les miennes, etc., de façon à faire un projet qui puisse nous intéresser tous les deux, dont on soit tous satisfaits. Mais certains projets payent pour d'autres, évidemment.
L'expérimentation, on l'a fait notamment avec ces commandes, même quand elles échouent, par exemple.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que nous, on a une pratique où on expérimente énormément. Chaque projet est redessiné en cours de route un certain nombre de fois, et même en phase esquisse, en fait, souvent en phase esquisse, donc la première phase qui est toujours la phase un peu décisive, c'est-à-dire que le client choisit son architecte, et puis en fait, à la présentation de la première esquisse du projet, il peut décider que le projet ne lui plaît pas et donc renoncer, changer d'architecte. Pour éviter ça, je fais en général plusieurs versions du projet, dont je pense qu'elles sont toutes valables. Et ces versions étaient précédées d'autres versions beaucoup plus nombreuses. Donc en fait, on a finalement un catalogue d'objets dessinés assez important.
Jean-Simon Roch.
Oui, alors moi je fais partie de ceux qui ont eu une bonne étoile au départ, juste après mon diplôme, parce que j'ai remporté le prix Émile Hermès, qui a une très bonne dotation.
Réputation aussi, ouais.
Et qui m'a permis de pouvoir du coup m'engager dans un atelier, un rêve qu'on avait entre amis depuis longtemps, et d'avoir toutes les machines à disposition, l'espace pour prototyper, pour passer ma journée en fait à bidouiller des choses et voir si ça donne quelque chose ou si ça ne mène à rien. Et maintenant, c'est plutôt du coup les marques ou les centres culturels qui viennent me voir mais pour vraiment quelque chose de précis et qui correspond bien à mes recherches. Et c'est là aussi qu'Instagram, je reviens dessus, mais est important. C'est qu'en fait, c'est une vitrine pour moi de recherche constante.
Ouais, un book, là, ce qu'on disait tout à l'heure.
Mais au-delà du book où ça serait des projets qui sont aboutis, là, c'est vraiment des étapes de recherche.
Plus besoin de site, plus besoin de, quelqu'un disait tout à l'heure, plus besoin non plus, c'était Arthur Hoffner, plus besoin d'avoir ça, son site ou, ça, ou son CV. On a un portfolio sur ce type de réseau social, ce qui est à la fois critiquable, mais très utile.
Oui, voilà. Et puis en plus, il est très ciblé, très mis à jour régulièrement, plutôt qu'un site qui sont souvent en retard sur nos travaux et tout ça.
Sur ce sujet, Aurélien Fouillé.
Sur les modes de financement, vous l'avez évoqué, les prix sont souvent une façon de mettre le pied à l'étrier de jeunes ou moins jeunes créateurs. Hein. Je pense par exemple à Steven Leprisé qui est au studio Arca, qui a eu le prix pour l'intelligence de la main Liliane Bettencourt cette année, qui a inventé une sorte de matériau qui est le bois gonflable et qui a des propriétés absolument étonnantes. Et ça lui a ouvert les portes ensuite justement d'autres types de R&D, alors avec le CNRS, avec la DGA, où il va travailler aussi sur d'autres types de matériaux, donc du bois rendu conducteur ou des choses comme ça. Et puis on parlait tout à l'heure de la digitalisation, de la numérisation. Ça, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup transformé les pratiques de recherche et de développement pour les designers, parce que ça rend accessible assez facilement, pour des sommes aujourd'hui assez abordables, vous l'évoquiez, avec les imprimantes 3D, les découpeuses laser, les commandes numériques, finalement la capacité de pouvoir prototyper. Et ça, c'est quelque chose aussi propre à cette génération de designers qui a été habituée avec le numérique à la version bêta. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a l'habitude qu'un objet, quand on nous le livre, il est terminé. Et puis, si on change d'objet, on change d'objet. Le numérique nous a habitués à l'idée que quand on a un logiciel, on change pas de logiciel, on fait simplement une mise à jour. Et en fait, cette idée d'essai-erreur et de prototypage, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de leur pratique aujourd'hui.
Sur les perspectives futures, je vous propose de terminer avec une dernière interview. À nouveau, l'artiste designer suisse David Simon, formé à l'Interactive Design. On l'a déjà écouté tout à l'heure. Et là, il évoque maintenant le potentiel, notamment de la blockchain dans le design. C'est un peu spécialisé, mais écoutez ce qu'il en dit, David Simon.
C'est une combinaison de Raspberry Pi qui se régénère constamment. Ce n'est pas un Bitcoin, c'est assez semblable, c'est fondé sur le même code. Cela crée un réseau local, un ensemble de nodes qui est interrompu sans cesse par un élément adverse. C'est un réseau Bitcoin réduit, voilà, c'est ce que c'est en gros, installé sur un réseau local, et le réseau est fragmenté constamment, c'est-à-dire qu'il se divise en des morceaux. Cela provoque ce que l'on appelle le hard fork ou le fork. Ces groupes vont se régénérer dans des directions complètement diverses, divergées, et il faut trouver une solution. Une solution va émerger et elle se trouve à travers une forme de consensus. Cela signifie que l'on doit retrouver à chaque fois un nouveau consensus. Il faut trouver une vérité pour sortir de cette situation de chaos. Et s'il y a trop de fragmentation, on n'avance pas. Et s'il y en a très peu, on peut avancer. C'est une certaine façon de trouver son chemin dans le chaos et de mettre en lumière ce processus qui, au final, est à la base de tous les crypto-monnaies et les blockchains.
Vous avez, David Simon, étudié ce qu'on appelle l'interaction design. Comment est-ce qu'on pourrait définir l'interaction design ?
Le design d'interaction, je dirais que c'est un type d'art appliqué. Au départ, on voyait cela plus comme une fabrication très abstraite, c'est-à-dire que de créer une interaction entre l'ordinateur et l'être humain. Au départ, c'était cela, il y a 40 ans, il n'existait pas un modèle pouvant expliquer cette interaction entre l'être humain et la machine. Et on a développé cela d'une certaine façon. Aujourd'hui, il s'agit beaucoup plus de l'humain, de la machine et d'une véritable interaction avec l'humain, c'est-à-dire comment l'homme, à travers la machine, peut utiliser les technologies. Et il s'agit de créer et de designer ces interactions, et ce n'est plus simplement regarder le produit et le service, mais plutôt essayer de comprendre comment elles fonctionnent et arriver à les faire fonctionner pour qu'il y ait une véritable interaction. Ce n'est plus l'aspect visuel qui est intéressant.
Comment la blockchain peut, d'une certaine manière, transformer, on dit disrupter, comment elle peut faire cette disruption de l'art ?
Alors, je vais essayer d'expliquer pour vos auditeurs qui sont des novices en la matière peut-être. Le blockchain ou chaîne de blocs est un élément qui fonctionne de manière complètement décentralisée. Et ce que j'entends par là, c'est que chacun des ordinateurs qui participent dans le réseau donne les fondements de l'infrastructure même. C'est-à-dire que si vous en éteignez un, tout le reste continue à fonctionner sur les autres ordinateurs. C'est un peu la même chose comme pour Facebook ou toute autre grande infrastructure comme aussi Google, qui, où tous les ordinateurs appartiennent à une même et seule compagnie. C'est-à-dire qu'il y a d'autres services de technologie décentralisée. C'est-à-dire que tout à coup, vous arrivez à avoir une infrastructure qui ne peut pas être arrêtée et qui est organisée de façon démocratique. Enfin, la plupart du temps. Et si vous reprenez cet élément, vous réussissez à créer une infrastructure extrêmement révolutionnaire. Imaginez une plateforme dès lors, ou une plateforme mondiale, où vous pouvez présenter votre art, vous pouvez le vendre au sein de cette plateforme. Par exemple, ça serait comme un eBay sans eBay. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas à payer la commission de 30%. Il y a peut-être une commission, mais qui sert à payer le coût de l'infrastructure. Et ainsi, les gens sont poussés à être à abriter la plateforme. Mais la plateforme appartient à tout le monde. Et c'est révolutionnaire, parce que vous n'avez plus besoin de payer cette commission à celui qui est le portier.
Voilà, France Culture, il est 20h, passé d'une minute à l'instant, David Simon qui expliquait le rôle de la blockchain dans le secteur de l'art, du design, éventuellement de l'architecture. Pour terminer cette émission, peut-être une réaction sur ces différentes évolutions. Et on va enchaîner d'ailleurs avec Benoît Drouillat qui s'intéresse, lui, designer interactif, on est sur le même sujet. Peut-être une réaction, Jean-Simon Roch.
En fait, moi je reviendrai sur ce qu'avait dit Bernard.
Bernard Dubois.
Au début, c'était cette vague, c'est un peu cet emballement autour du numérique, en fait, et puis de tous ces mots un peu valises, donc qu'on a utilisé au début, retombe un peu et on revient sur ce qui fait sens dans le projet, en fait, et après, et de se dire que le numérique est un outil comme un autre, mais qu'il n'est pas l'objectif, en fait, principal, en fait, et que du coup, on revient sur la question du sens et de l'histoire.
Un mot pour terminer très brièvement, Bernard Dubois.
Oui, tout simplement, en fait, je pense qu'on est, on utilise plein d'outils et que ces outils évoluent et que malgré le fait que ces outils évoluent, il faut pas être esclave de son outil, mais il faut pouvoir l'utiliser au mieux pour arriver à exprimer ce qu'on veut exprimer.
Aurélien Fouillé, d'une phrase.
Je reviendrai sur le plus souvent démocratique dans le. Dans l'interview qui a été faite, c'est que le design a aussi une portée politique dans les objets qu'il façonne. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier.
Merci infiniment à tous les trois. Les traductions au cours de cette émission ont été faites par Paloma Goulemot. Soft Power, ça continue dans un instant. On parlera tout à l'heure à 20h10 de numérique et de politique. Mais juste maintenant, Zoé Sfez, votre invité innovation.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfez.
Bonsoir Benoît Drouillat.
Bonsoir Zoé.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes là parce que vous êtes le cofondateur, vous avez cofondé en 2006 Designer Interactif, ça se lit avec des petites étoiles de chaque côté.
C'est ça.
Association qui représente je crois 1200 professionnels du design. Quel est peut-être, avant de revenir spécifiquement sur ce que vous y faites, quel était le but en 2006, quelle était l'idée quand vous avez cofondé ça avec deux autres comparses?
Bien, en 2006, c'était une profession, le design interactif, qui était extrêmement jeune, extrêmement récente, et il n'existait pas d'espace, en fait, ou de plateforme avec laquelle les professionnels pouvaient, on va dire, échanger. Il y avait très peu d'échanges dans cette profession, et c'est pour ça que ce souci de rassembler les gens a émergé.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un designer interactif? Je pose la question de manière ingénue, même si j'ai lu des choses sur la question, reviennent souvent, et d'ailleurs sur le contenu extraordinaire du site de votre association, que j'invite tout le monde à aller voir, où il y a à la fois des articles, des recommandations de lecture, et puis des conseils très pratiques, à destination à la fois des designers, mais aussi des entreprises, avec ces fameux deux mots, UX designer, UI design. De quoi est-ce qu'on parle? C'est quoi ces concepts? C'est quoi un designer interactif?
En fait, un designer interactif, c'est un professionnel dont l'objectif, c'est à la fois de créer des expériences, de créer des interfaces et de le faire, si possible, en tout cas, c'est l'idée dominante actuellement, de le faire en intégrant le point de vue de l'utilisateur.
Voilà. Expérience utilisateur, c'est voilà. Le fameux mot.
Alors l'UX, c'est en fait la somme de toutes les perceptions, des émotions d'un utilisateur lorsqu'il interagit avec un produit ou un service. Voilà, c'est vraiment la dimension émotionnelle.
Et alors c'est quoi ces concepts? Parce qu'avant on parlait de web design, quand on parlait de gens qui dessinaient des sites web. À quel moment on est passé à cette UX design? Il vient d'où ce concept et est-ce qu'on l'utilise en France? C'est quoi la différence avec l'UI par exemple?
Alors, l'UX Design, c'est né chez Apple au début des années 90. Un monsieur qui s'appelle Donald Norman, qui est aussi à l'origine de toutes les méthodes de conception centrée utilisateur. Et donc, il trouvait qu'il n'y avait pas assez de, on va dire, de liant entre l'expérience qu'on pouvait vivre dans un produit, entre le packaging, le moment où on l'achetait, on le mettait dans le coffre de sa voiture, et ensuite la façon dont on l'utilisait. Et donc, ça a une vocation assez globale, en fait, l'UX. Voilà.
Et l'UI, alors UI design, c'est quoi ?
Et l'UI, en fait, si on pouvait résumer, c'est le produit fini hein, de l'interface. C'est vraiment là où a lieu le dialogue entre l'utilisateur et le produit et le service. Ça peut être une interface graphique, mais ça peut être aussi des interfaces vocales. Voilà, il y a différents types d'interfaces. Et l'UI, c'est vraiment ça.
Alors justement, à quel moment est-ce qu'ils ont émergé ? Vous me l'avez dit, designer interactif, vous le créez ça en 2006. Oui. Et concrètement, l'UX prend... disons, toute sa force, et commence à... Vous avez écrit un article de blog où vous dites l'UX inonde le monde, ou je crois, ouais, envahit, dévore le monde. De quoi on parle ? Ça date de quelles années ? Et puis, qui sont ces UX designers ?
La diffusion de l'UX, c'est quelque chose qui date du début des années 2010 aux États-Unis, hein, puisque c'est essentiellement au départ concentré en Amérique du Nord, puisque c'est là où sont conçus tous les logiciels qui sont importants. Et en fait, l'émergence de l'UX, ça a accompagné vraiment l'émergence du logiciel. Hein. L'UX dévore le monde, en fait, c'est une paraphrase du logiciel dévore le monde, qui est une citation de Marc Andreessen, qui est le fondateur voilà de Mosaic et de Netscape. Et on va dire que en France, ça s'est diffusé vraiment à partir des années 2011-2012, hein, parce qu'il y a toujours un petit retard, on va dire, par rapport à ce qui se passe outre-Atlantique. Et c'est une profession qui n'a cessé de monter en puissance et pour laquelle il y a actuellement beaucoup, beaucoup de besoins.
Il y a beaucoup de besoins, on arriverait à la chiffrer, c'est possible ou pas ça ?
C'est très difficile en fait de chiffrer le nombre exact de designers, hein, parce qu'en France, il existe une association qui s'appelle la PCI, dont j'ai été membre du conseil d'administration pendant une dizaine d'années, qui avait fait un recensement sur design toutes disciplines confondues en 2010, qui était de l'ordre de 30 000 designers, ce qui est assez faible par rapport à nos voisins européens. Donc on peut imaginer que dans le numérique, il y a probablement plus ou moins 10 000 personnes qui travaillent. Voilà.
Concrètement, comment est-ce que ça se passe ? Parce que vous, justement, c'est votre métier aujourd'hui. Comment est-ce qu'on travaille ? Ces gens dont on parle, UX designers, est-ce qu'ils sont dans des entreprises ? Est-ce qu'ils sont à l'extérieur d'entreprises ? À quel moment du processus de création d'un objet, d'un logiciel, d'une application, de n'importe quoi, est-ce qu'ils interviennent ?
Alors, les UX designers, les designers numériques, les UI designers, peu importe comment on les appelle, hein, finalement, sont des gens qui travaillent un peu partout. Ils peuvent travailler soit en tant qu'indépendants, ça c'est, on va dire, des modalités d'exercice qui sont assez répandues dans la profession. Ils travaillent aussi beaucoup au sein d'entreprises, ce qu'on appelle des annonceurs ou des entreprises clientes ou des éditeurs de logiciels. Par exemple, moi c'est mon cas, je travaille chez un éditeur de logiciels. On va les trouver également beaucoup dans des agences, hein, parce que c'est beaucoup aussi un régime de prestation de services, le design.
Et alors justement, qui sont aujourd'hui leurs clients ? Qui a besoin de ça aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est beaucoup concentré dans le B2B.
Business to business, voilà, pour rappeler à nos collègues, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise.
Voilà, d'entreprise à entreprise.
Exemple.
On peut donner un exemple. Bah, on va prendre mon exemple. Moi, je travaille dans une société qui s'appelle WooDrive et qui fait des solutions de partage de données sensibles. Donc, on gère tout ce qui est données sensibles et on sait qu'en France, c'est un sujet particulièrement aigu, on va dire. Et il faut imaginer que les clients de ma société sont des grands groupes, ça peut être aussi des entités publiques, et donc sont des gens qui, dans leur travail au quotidien, ont besoin de s'échanger des fichiers, tout simplement. Et il faut imaginer comment on va à la fois donner confiance à travers l'interface et comment aussi on va mettre en scène toute l'expérience du produit, parce que souvent ce sont des tâches de travail qui sont un peu complexes, donc il faut bien comprendre les besoins et les attentes de façon à ce que l'expérience se passe bien et qu'il y ait une vraie facilité d'usage.
Alors, on dit souvent, on lit, et d'ailleurs j'ai beaucoup lu certains des articles que vous publiez sur ce blog, que ce serait en fait visiblement une espèce de changement révolutionnaire, cette espèce d'histoire de l'expérience utilisateur et de ce qu'on a appelé aussi le design thinking. Est-ce qu'on parle de la même chose ou pas ?
On parle pas tout à fait de la même chose parce que le design thinking, ça a été imaginé...
C'est une culture, disons.
C'est une culture, voilà. C'est une sorte de cheval de Troie qui a été imaginé par Tim Cook, qui est le directeur de l'agence IDEO, qui est une grande agence de design, hein, qui est d'ailleurs une agence de design qui a beaucoup contribué dans le numérique à diffuser les méthodes du design. Et c'est plus quelque chose qui va s'adresser à des cadres très haut placés dans les entreprises, le design thinking. Mais en fait... les designers n'ont pas besoin du design thinking, ils font du design doing tous les jours.
Voilà, donc en fait, le design thinking, vous en parliez, c'est de dire en fait, il nous faut des designers à tous les endroits de l'entreprise, parce qu'en fait, le designer est un pivot qui va s'intéresser d'abord aux besoins avant de s'intéresser à quoi, au produit fini, à ce qu'on veut imposer. Ça tendrait à nous dire que finalement, le designer, on en a besoin à tous les stades de réflexion. Pourquoi d'ailleurs ?
On en a besoin très en amont. Alors c'est vrai que le designer, par ses compétences, il a une vocation très transversale. Le designer, évidemment, il développe une grande curiosité, on va dire, pour des objets qui peuvent être très très différents. Hein. On est obligé de s'intéresser à la sécurité, on est obligé de s'intéresser vraiment aux métiers de nos clients, qui peuvent être des métiers, on va dire, un éventail de métiers extrêmement large. Et je sais plus quelle était la question, le début de la question.
La question était très simplement, est-ce qu'on est dans la même logique ? C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, en France, par exemple, on est dans une culture où on a le designer à tous les endroits et aux bons endroits ?
On n'est pas encore dans cette culture. Nous, on souhaiterait, évidemment, que la culture du design se diffuse très largement. Ce sont des choses qui sont un peu plus complexes en France de par la perception du design de manière générale. Hein. Pour beaucoup de gens, le design, ça reste du design mobilier, ça reste Stark, ça reste voilà, des designers stars comme ça. Alors que le design, en fait, c'est une démarche avant tout. Voilà. Et c'est une façon de s'intéresser aux besoins, aux attentes des gens qui vont utiliser dans leur quotidien les produits et les services.
Et ces fameux designers, UX designers qui s'intéressent à l'expérience et ces designers interactifs, est-ce qu'ils viennent tous de formation design ? Cette fameuse profession qui a émergé en à peine 10 ans, c'est qui ces gens-là ?
Alors, ils viennent de formation. Nous, on réalise régulièrement, dans le cadre de designers interactifs, des études sur les métiers. Et pour une grande partie d'entre eux, ce sont quand même des gens qui ont des formations universitaires, comme moi. Hein. Moi, j'ai fait des études de lettres. De plus en plus, il y a des gens qui sont issus d'écoles de design, puisqu'en France, on a quand même la chance d'avoir d'excellentes écoles de design, comme l'ENSI, comme Strat, comme l'école de design de Nantes, qui sont beaucoup intéressés et très tôt aux questions de numérique. Hein. Je pense notamment à Jean-Louis Fréchin, à l'ENSI, qui a fait beaucoup de travail sur le numérique. C'est quelqu'un que vous avez, je pense, déjà reçu ou qui vient régulièrement parler sur France Culture. Et il y a vraiment une diversité d'horizons et il n'y a pas forcément de chemin royal pour devenir designer.
Et en tout cas, il y en a de plus en plus, et donc je vous conseille, je conseille à ceux d'ailleurs qui aimeraient en être, de lire notamment tout ce que votre association produit et organise, ces designers interactifs. Merci beaucoup, Benoît Troyat.
Merci à vous.
Voilà, et au terme de cette longue partie consacrée ce soir au design, on peut vous recommander un certain nombre de blogs et de journaux, bien sûr AD, Milk Maison, Intramuros, Elle Déco. On avait des personnes de ces différents journaux dans cette émission, le blog Sight Unseen, et puis pour aller plus loin, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces références, articles et ouvrages sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power. Vous pouvez également vous abonner au podcast de cette émission sur le site franceculture.fr, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone, tout ça avec le mot Soft Power.
Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
Voilà pour terminer Soft Power ce soir, le débat, comme chaque dimanche, le débat, le numérique et politique, consacré ce soir aux fake news. Quelle loi contre la diffusion des fake news ? Et nous sommes pour en débattre avec Romain Pigenel, ancien conseiller de François Hollande à l'Élysée, cofondateur de Futur au pluriel, futur.io, et de Paula Forteza, députée La République En Marche. Alors en janvier dernier, le président Emmanuel Macron a annoncé la préparation d'une loi contre la diffusion des fausses informations, ce qu'on appelle parfois parfois à tort les fake news. C'est le ministère de la Culture qui a planché sur ce projet de loi et le CSA qui devrait notamment en partie s'en occuper. Et tout ça a été transmis aux députés de la majorité depuis le mois de mars. Aujourd'hui, on connaît les grandes lignes du projet qui devrait être débattu dans les semaines à venir à l'Assemblée nationale. À l'échelle européenne, d'autres États ont légiféré ou sont sur le point de le faire. On peut citer notamment l'Allemagne, la République tchèque ou encore l'Inde, avec des résultats variables. Quant au Parlement européen, un groupe de travail a été nommé par la Commission européenne avec de nombreux experts qui planchent également sur une législation à l'échelle européenne. Alors pour commencer, Paula Forteza, peut-on revenir sur les propositions contenues dans le projet de loi intitulé la loi de fiabilité et de confiance de l'information?
Donc d'abord, je voudrais commencer par dire que le sujet des fake news est beaucoup plus large que ce que nous retrouvons dans ce texte, parce qu'il touche par exemple le modèle d'affaires des plateformes, l'utilisation des données personnelles à des fins publicitaires. Il touche aussi des questions liées à la presse, au financement de la presse, à la diversité de la presse. Donc ceci ne va pas à l'encontre d'étudier une par une les propositions qui sont faites dans cette proposition de loi et d'en voir les pour et les contre. Il y a des propositions qui vont incontestablement dans le bon sens, par exemple les propositions en lien avec la transparence des contenus sponsorisés lors des périodes électorales où on devra savoir qui a publié ces contenus et combien d'argent ils ont dépensé sur ces contenus. Je crois même que sur ces dispositions, il faudra aller beaucoup plus loin pour pouvoir comprendre, par exemple, aussi le fonctionnement des algorithmes de recommandation de certaines plateformes qui sont parfois les grandes responsables de la diffusion des fausses nouvelles. Il y a aussi des propositions qui sont un peu plus remises en question, comme la mise en place d'un juge, d'un référé, qui pourra déterminer si un contenu doit être déplacé, doit être...
Et cela très rapidement.
Et cela très rapidement, en 48 heures.
Donc, on connaît le nom des rapporteurs de cette loi qui n'était pas encore connu récemment, mais je crois que ça a été...
Oui, nous avons deux commissions qui ont été saisies, donc la commission de la culture avec comme rapporteur Bruno Studer et la commission des lois avec comme rapporteur Naima Mouchou.
Alors sur ces sujets, on est aussi avec Romain Pigenel. Peut-être, Romain, vous pourriez nous... C'est quoi une fake news au fond? C'est quoi une fausse information? Parce que Paula Forteza, d'une certaine manière, a introduit la question en montrant que la loi va s'attacher à une partie et pas à tout, et qu'elle-même va traiter différents sujets. Tout ça est très complexe. Qu'est-ce que c'est réellement qu'une fausse information?
Mais justement, c'est toute la question, et la définition fait partie des manières de répondre au problème. Il y a un noyau, je dirais, de réponse, qui est le premier sens de la fake news, et je crois que c'est ce qui est visé justement par la loi qui va passer, et qu'elle mérite justement d'essayer de circonscrire son champ d'application. C'est la tentative délibérée, par la diffusion d'informations mensongères, en le faisant sciemment, d'arriver à jouer sur l'opinion, de faire changer l'avis des personnes.
Et ça, d'une certaine manière, c'est pas nouveau, puisque dès la loi de 1881, on lutte contre les fausses informations.
Voilà, et effectivement, il y a aussi des éléments dans le code électoral aussi, qui prennent en charge cet aspect-là, sachant que l'idée qui n'est pas fausse, c'est que cette manière de faire qui est ancienne, elle prend aujourd'hui une puissance nouvelle grâce aux plateformes, grâce au numérique, etc. Donc il y a cet aspect-là. Puis après, il y a beaucoup d'autres aspects qui vont aussi dans le sens des informations. Il y a d'abord tout ce qui est les sites qu'on appelle du clickbait, des appos à clics qui reprennent des informations en les modifiant pour les rendre attrayantes et qui, se faisant justement, finissent sciemment ou non par les modifier et
parce pratiquer. Que ça, c'est leur modèle économique au fond.
Voilà, absolument, et ça tout le monde le pratique, et moi ça m'amuse toujours de voir, par exemple, sur les informations scientifiques relatives à des découvertes dans l'espace, souvent même des titres de presse généralistes
légitimes
vont dans le sens sensationnaliste en disant des structures qui pourraient être extraterrestres, etc., parce qu'on va plus cliquer, on va aller voir l'information. Donc ça, c'est une tendance lourde de la presse. Après, il y a aussi la fake news à des buts de propagande, et ça, c'est pas d'information directement fausse, mais c'est une façon très orientée de présenter l'information pour semer le doute, et ça on sait qui le fait, c'est notamment des organes de presse qui sont liés à des pays autoritaires ou du moins qui ne partagent pas nos valeurs. Et puis après, il y a aussi la fake news utilisée comme insulte ou instrumentalisée par certains leaders politiques extrémistes, et on voit bien que notamment Donald Trump ou Marine Le Pen ont eu très rapidement l'idée de retourner le terme de fake news et d'accuser toutes les personnes qui tentaient de les critiquer, de colporter ce genre d'informations. Donc il y a aujourd'hui une dilution à la fois du concept qui veut dire plein de choses différentes, et en même temps, moi, ce qui me frappe, c'est que il y a comme une unité, qui est qu'on est entré dans une ère que moi j'appelle moi l'ère de la vérité précaire, de la précarisation de la vérité, qui a plein de raisons. Hein. Il y a le relativisme ambiant, il y a la remise en cause d'autorités intellectuelles, il y a aussi le numérique, et ça on va vivre pendant longtemps dans ce nouveau paradigme informationnel.
Alors comment Paula Forteza, au fond le gouvernement, en l'occurrence aussi le Parlement, réussit à dans cette complexité à trouver les moyens de légiférer? Et est-ce que on a l'exemple allemand qui a un peu échoué, l'exemple indien qui s'est retourné contre ses initiateurs, par exemple, énormément de news dont on peut dire, mais c'est peut-être un point de vue, qu'elles ne sont pas vraies, peuvent être diffusées par représentants, élus d'extrême droite ou d'extrême gauche ou d'autres. Comment est-ce qu'on va choisir, comment est-ce qu'on va finalement censurer, punir ce qui est de l'ordre, au fond, d'une liberté d'information, même quand elle est fausse, venant de leaders politiques élus parfois au Parlement?
Donc voilà, nous allons déjà étudier tous ces cas à l'international. En Allemagne, par exemple, ils ont fait fausse route parce que ils ont donné la responsabilité aux plateformes de définir ce qu'était une fausse nouvelle. Donc les plateformes commencent à faire de la modération a priori et donc à censurer du contenu avant même qu'il soit publié, par peur d'avoir des amendes ou des pénalités financières. Ce qui va à l'encontre du modèle d'Internet libre, ouvert, que nous voulons tous défendre. Nous allons aussi suivre ce que les préconisations de la Commission européenne, qui vont beaucoup plus dans le sens de se dire il faut que ça soit la société par elle-même, à travers des initiatives de fact-checking, par exemple, à travers de l'éducation aux médias, à l'information, qui pourra diffuser un esprit critique pour que chaque utilisateur puisse savoir quelle est une information de bonne qualité. Mais dans tout ce contexte, nous allons essayer de trouver un équilibre justement entre la résolution d'un problème qui est vraiment réel. On voit encore en Irlande, par exemple, dans le cadre du référendum lié à l'avortement, que beaucoup de fausses nouvelles ont été diffusées sur Facebook, sur Google, et que ces plateformes ont commencé à s'autoréguler elles-mêmes. Donc nous, on se pose la question, est-ce que il ne faut pas que ce débat ait lieu au niveau de la société, au niveau du législateur? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y a un contrôle démocratique autour de ces pratiques? Donc le débat doit avoir lieu à l'Assemblée et nous l'aurons dans les prochaines semaines.
Romain Pigenel, qui décide qu'une nouvelle est fausse?
Je crois que votre question, elle m'évoque quelque chose qui est extrêmement important dans ce débat, et aussi ce que vient de dire madame la députée, c'est de ne pas oublier d'y associer justement tous les universitaires, les chercheurs, notamment les gens qui font des sciences cognitives, des sciences de l'information, parce que c'est un sujet extrêmement compliqué, et toutes les études qu'on a, alors pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'études d'ailleurs, il y a des études sur la campagne américaine, il y a des vieilles études d'ailleurs sur tout ce qui est les biais cognitifs, donc il y a à la fois des choses anciennes qu'on peut réutiliser, il y a des études sur les faits plus nouveaux qui commencent à apparaître, montrent qu'il y a plein parfois d'effets extrêmement sensibles en voulant justement faire du fact-checking. On peut renforcer, au contraire, les croyances des personnes qui croient déjà à une information fausse. Donc il y a beaucoup d'effets extrêmement fins.
On voit bien sur, parlant du chômage par exemple, dire le chômage augmente, rien que ça déjà, il y a tout un débat, c'est quel type de chômage, il y a le chômage A, B, C, par rapport à quelle période, etc. Donc la vérité est complexe quand même dans l'information.
Et c'est bien pour ça qu'il faut dans ce débat, à mon avis, associer fortement les gens qui sont des spécialistes de la vérité, qui sont donc les philosophes, les épistémologues, que pour l'instant on a assez peu entendu finalement, et il y a des une fois des recherches existantes, des recherches qui sont en train d'être faites, il faut leur donner toute leur part. Et justement, moi je travaille actuellement à une initiative de ce type-là avec le monde de la recherche, dont on reparlera peut-être prochainement dans cette émission.
Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'est vu attribuer, Paula Forteza, un rôle dans cette... Quel va être son rôle? Est-ce qu'il est limité? Et qu'est-ce qu'il peut faire, le CSA?
Son rôle est très circonscrit. Il pourra aller à l'encontre de conventions avec des médias étrangers, par exemple RT ou Spoutnik, si dans un contexte électoral, il met en avant des informations qui vont contre les intérêts de la nation, contre la sécurité de la nation. Donc c'est un rôle assez circonscrit. Ça ne sera pas au CSA de définir quelle est la vérité, qu'est-ce que c'est qu'une fausse nouvelle. Ça sera plutôt au juge dans le cadre du référé.
Et justement, le juge dans le cadre du référé, on en a parlé ici plusieurs fois. Est-ce que c'est réaliste de laisser au juge, dans le cadre d'une procédure comme le référé administratif qui est très 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 court, même si effectivement c'est une volonté de ne pas laisser aux plateformes cette possibilité-là, est-ce que c'est réaliste ?
Et quand on voit combien de temps il faut parfois pour vérifier une information, et c'est sur ça, Romain Piginel ?
Moi, c'est le point qui me pose problème dans la loi. Je pense que je partage l'avis de Paola Forteza. La partie qui est bien, c'est celle qui veut contraindre les plateformes à plus de transparence. Et justement, elles ont commencé à le faire. YouTube a encore annoncé récemment qu'ils allaient justement maintenant indiquer les chaînes qui sont financées par des États. Donc, il faut les pousser dans ce sens-là, et la loi est utile. En revanche, moi, je suis plutôt inquiet sur la partie référée pour plusieurs raisons. D'abord, parce que 48 heures pour décider de la factualité des faits.
C'est à la fois très lent et très court.
C'est très court. Et après, on peut imaginer plein d'effets pervers. Premier effet pervers évident, c'est la multiplication de procédures fantaisistes. Mm-hmm. On imagine dans une fin de campagne comment ça pourrait être instrumentalisé, y compris par des leaders extrémistes qui ont toujours fake news à la bouche.
Ou des leaders tout court. Est-ce qu'on pourrait imaginer que François Fillon aurait tout à fait pu se saisir typiquement dans une procédure comme celle-ci au cours de la dernière élection présidentielle ?
Et puis juste pour terminer, un autre effet pervers aussi qu'on pourrait imaginer, qui serait le cas où le juge, et il aurait raison, ne voudrait pas se prononcer parce que justement les faits ne seraient pas assez probants, pour une news qui serait par ailleurs une fake news.
Et donc il la légitimerait d'une certaine manière.
Et voilà, les promoteurs pourraient revenir en disant, vous voyez, le juge ne l'a pas condamné, donc nous avons raison. Un mécanisme bien connu des conseillers en communication.
Paola Forteza.
Ce dispositif pose question. Nous allons y travailler pour le circonscrire, pour le rendre le plus équilibré possible, si ce n'est l'éliminer. Il faudra se poser la question, il faudra écouter. On fait une ronde d'audition depuis quelques semaines déjà. Et donc, on va vraiment travailler sur ce sujet. En tout cas, il faudra éviter un écueil qui est très clair, qui est le juge ne devra pas définir ce qu'est la vérité. Il devra juste étudier s'il y a eu un préjudice envers une personne, quelles ont été les motivations de la personne qui a diffusé ces fausses nouvelles, est-ce qu'il y avait vraiment envie d'aller à l'encontre, de faire tort à une autre personne.
Une dernière question, même si vous avez parlé évidemment de la question de l'éducation critique aux médias, il y a quand même deux grands cas dont Emmanuel Macron a pu parler, mais qui ne sont pas traités par cette fake news. C'est la question de la hiérarchie de l'information, parce qu'on sait aujourd'hui que la plupart des informations, voire la grande majorité des informations que donne Russia Today ne sont pas fausses, elles sont simplement éditorialisées de manière très très subjective. Et par ailleurs, on parle souvent évidemment de la bulle de l'information, où les plateformes vous enferment dans vos propres références, dans les sites que vous consultez. Évidemment, la question de la transparence, elle est importante, mais
là, on voit bien que la loi est très...
La loi est très inexistante sur cette question. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, par exemple, si on travaille avec la question des plateformes, essayer de penser ces choses-là, et notamment de cette question de la bulle, c'est-à-dire comment toutes les informations reviennent... Quelqu'un va être soumis.
Paola Forteza, ouais.
Nous allons avoir des propositions dans ce sens au long de la séance. Je crois, par exemple, que ça serait très utile de pouvoir demander des statistiques aux plateformes sur les résultats des algorithmes de recherche et de recommandation. Parce que ça nous fera pouvoir étudier les biais qui peut y avoir et comment l'information a été organisée, a été éditorialisée ou mise en avant.
Pour terminer peut-être, Romain Piginel, on parle souvent de fake news et au fond, c'est déjà un peu une erreur parfois aussi dans l'expression, ces fake news sont pour une part, et la manière dont elles se diffusent très souvent, des fake publicités, c'est-à-dire c'est des news qui ont été sponsorisées, c'est-à-dire quelqu'un a payé. Donc là, il y a tout un travail à faire pour identifier celui qui paye ces publicités et peut-être réguler la publicité sur les réseaux sociaux avant même de vouloir réguler les fake news. Parce que certes, n'importe quelle news peut exister et être fausse, mais la manière de se répandre, de devenir très viral et très souvent lié à des contenus sponsorisés.
Alors, réguler ça et réguler la manière dont les plateformes travaillent, c'est une évidence, mais je crois qu'il faut aussi se mettre en tête qu'on va maintenant apprendre à vivre avec les fake news. Parce que comme je le disais, c'est une nouvelle modalité de l'information qui est liée à la facilité maintenant de faire des fakes, à la facilité de communiquer. Donc je vois pas qu'on va pouvoir guérir les fake news. Il faut apprendre à vivre avec, ça veut dire renforcer l'esprit
critique. Il y avait des rumeurs depuis toujours.
Évidemment.
Edgar Morin l'avait montré dès les années 60.
On était dans un marché, si j'ose dire, très régulé de l'information. Aujourd'hui, tout le monde peut communiquer et c'est une bonne chose. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à donner à chacun les moyens de se responsabiliser et de mieux comprendre à comment disséquer l'information et comment arriver à analyser sa véracité.
Merci infiniment à tous les deux. Merci à Paola Forteza, députée de La République En Marche. Merci à Romain Piginel, ancien conseiller de François Hollande, à l'Élysée, cofondateur de Futur.io. Et merci à vous, Zoé Sfez, d'avoir été avec nous ce soir,
merci,
ensemble,
Frédéric,
sur le design, l'architecture et donc les fake news. On se quitte avec This is America, le dernier titre du chanteur américain Childish Gambino. La vidéo d'ailleurs de ce This is America est presque une fake news à elle-même. Elle a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis depuis une dizaine de jours en cause de la mise en scène au premier plan des danseurs de Childish Gambino et au second plan des scènes de violence policière. Derrière le divertissement et l'entertainment américain se cacherait la violence et le racisme de la société américaine. Tout ça, bien sûr, l'artiste le défend et évidemment la polémique est née autour de ce This Is America. I gotta carry on. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. Dimanche prochain, on parlera de l'Arabie Saoudite, un pays de hard power qui s'intéresse au soft power. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.